drogue en Ontario, au Canada. Alors, le titre de sa communication est l'histoire au croisement des cultures. Mais peut-être deux mots pour vous présenter.
Oui, bon, moi, j'enseigne la littérature jeunesse en Ontario, essentiellement à des anglophones, je le précise quand même, mais aussi à un certain nombre de francophones, puisque sur ce campus, les étudiants sont anglophones et francophones. Une petite précision quand même, d'habitude je ne travaille pas sur ce genre d'ouvrage, mais je suis arrivée par là parce que je m'intéressais à l'image de l'autre, au moi et l'autre, dans la littérature de jeunesse, et j'ai découvert un de ces ouvrages qui m'a fait réfléchir et qui, je crois, entre dans la problématique de ce colloque. Alors, je ne tiens absolument pas à donner des réponses. Je crois que cette présentation est plutôt là pour soulever un certain nombre de questions et peut-être même, je l'espère, lancer le débat. Alors, voilà. Quand, en 2006, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec présente ses propositions de réforme pour 2007... Celles-ci ont l'effet d'une bombe. Élaborées notamment à partir des théories de l'historien Jocelyn Letourneau, elles proposent de convertir le programme d'histoire nationale du Québec, du secondaire, en programme d'histoire et éducation à la citoyenneté. Citoyenneté nationale, québécoise, mais aussi et surtout citoyenneté du monde. Il s'agit moins, d'après ces nouvelles directives, de mettre l'accent sur des moments traditionnellement importants de l'histoire du Canada français et du Québec que, je cite, « de rendre la trame historique davantage plurielle en accordant notamment une place plus importante aux groupes non francophones ». Je cite ici Félix Bouvier. Et ce, de manière à tenir compte de la diversité culturelle de la population. Beaucoup s'insurgent alors contre les nouvelles mesures. On questionne le défi à établir un lien entre l'histoire, l'évocation du passé, et l'éducation à la citoyenneté ancrée dans le présent. On reproche au nouveau programme, je cite, « d'évacuer et de nier le thème de la nation au profit de concepts tels société, peuple, etc. » et de ne plus traiter assez de l'histoire nationale et des aspects propres à l'histoire du Québec. Certains intellectuels québécois d'ajouter qu'un tel programme risque de nuire à l'intégration des enfants issus de l'immigration. On les prive, disent-ils, de la mémoire nationale et donc, je cite, « des outils nécessaires à la compréhension de nos débats contemporains qui ont tous des racines dans l'histoire de notre communauté ». La Société des professeurs d'histoire du Québec demandera quant à elle que la question nationale soit rendue beaucoup plus visible dans le programme d'histoire et éducation à la citoyenneté du deuxième cycle du secondaire. 14-15 ans. La même année, 2006, une nouvelle collection jeunesse voit le jour aux éditions Pierre Tisser, maison d'édition souvent privilégiée par les enseignants du Québec. Il s'agit de la collection Ethnos. Vous voyez déjà que le nom est assez évocateur. Destinée aux 12 ans et plus, donc aux étudiants du secondaire québécois, elle se présente, je cite, « comme passeport incontournable » pour les citoyens du monde en devenir. Destinée à sensibiliser le lecteur à la diversité culturelle, elle est décrite comme, je cite encore le site de la maison d'édition, « axée sur l'anthropologie, c'est-à-dire sur le multiculturalisme et l'évolution de l'homme, dans une perspective à la fois historique et contemporaine ». Ça doit évoquer des choses pour les francophones de France. Un mandat qui se situe dans la droite ligne du nouveau programme d'histoire et éducation à la citoyenneté. La collection affiche par ailleurs ouvertement son caractère didactique. Chaque ouvrage, rédigé avec l'aide de chercheurs de disciplines diverses, ethnologues, ethnopsychiatres, anthropologues, sociologues même, comprend des notes en bas de page, mais aussi un supplément d'informations de 25 à 40 pages, et oui, où les jeunes lecteurs, comme leurs enseignants, trouveront cartes, données géographiques et historiques, témoignages réels, références littéraires et cinématographiques et même adresses de sites internet pour approfondir leurs connaissances. Parmi les sujets abordés, nous citerons entre autres les découvertes scientifiques dans la Grande-Bretagne du début du XXe siècle et la montée du féminisme, dans le même ouvrage, le Mali et l'esclavage moderne, le Guatemala et sa guerre civile, la communauté libanaise au Québec et l'homosexualité dans l'histoire, ou encore l'arrivée des conquistadors à Hispaniola. En d'autres mots, une collection sur mesure pour le nouveau programme du ministère de l'Éducation, puisque mêlant histoire, histoire de l'autre surtout, réalité sociopolitique contemporaine, droits de l'homme et respect des différences. Alors, je reconnaîtrai dès à présent que certains des ouvrages de la collection, je dirais certains, qui comptent aujourd'hui 10 numéros, tentent à tomber dans le piège d'un didactisme à outrance, faisant parfois passer la leçon avant la fiction. Mais l'approche privilégiée mérite toutefois que nous nous y attardions, puisqu'elle semble aussi refléter une adaptation du genre historique en littérature de jeunesse québécoise, une adaptation qui suit par ailleurs la tendance de cette branche de la littérature à accorder une place sans cesse grandissante à la reconnaissance des cultures minoritaires. Les trois ouvrages que nous avons choisi de présenter, assez brièvement, étant donné que nous n'avons que 20 minutes, abordent des moments de l'histoire lointaine ou récente des Caraïbes et de l'Amérique latine, lieux dont sont originaires un nombre important de Québécois issus de l'immigration. Nous proposons donc de montrer comment ces textes s'inscrivent dans le nouveau programme, mais surtout comment ils mettent à profit des événements marquants de l'histoire de l'autre pour inviter leurs jeunes lecteurs à une réflexion sur l'identité culturelle et nationale. C'est donc essentiellement l'approche, la méthode ici qui m'intéresse plutôt que, je dirais, le discours qui est présenté. Alors, le premier, Par le fer et par le feu de Daniel Mativa, publié en 2006, le premier de la collection, donc, donne le ton. Dans ce roman historique, c'est du moins comme tel qu'il est présenté, Mativa, ancien enseignant et auteur de jeunesse reconnu, se détache de ses domaines de prédilection, à savoir les événements historiques traditionnellement liés à la construction du pays. Le sort des autochtones au Canada, les colons ou encore la révolte des patriotes. Ici, il transporte ses jeunes lecteurs à Hispaniola, j'en parlais tout à l'heure, puis à Cuba au début du XVIe siècle, aux côtés d'une figure héroïque assez peu connue, ce qui lui donne quand même une certaine liberté, le père Bartolomé de las Casas, grand défenseur des Amérindiens. Alors que les écrivains pour la jeunesse préfèrent habituellement, je cite Thaler et Jean Barre, cantonner leurs personnages historiques dans les arrière-cours du roman, Mativa a choisi de mettre las Casas sur le devant de la scène au même titre que le héros, un jeune indigène taïno dont le peuple est massacré par les conquistadors et que le prêtre prend sous sa protection. Le cheminement du héros fictif, à travers les yeux duquel sont présentés la plupart des événements, et c'est en fait ce qui fait l'intérêt de la collection, se confond ainsi avec 12 années d'histoire. Il sera lui-même victime des atrocités des Espagnols assoiffés d'or, de l'esclavage, de la propagation de la variole. Il prendra part à la conquête de Cuba, assistera à l'arrivée des esclaves noirs, et il sera aussi et surtout témoin des difficiles interventions de las Casas auprès des colons et des représentants du roi d'Espagne pour faire valoir les droits des autochtones en tant qu'êtres humains. Son cheminement aux côtés du prêtre permet ainsi à son auteur de soulever indirectement des questions d'ordre moral ou éthique sur le rôle de l'Église dans cette entreprise coloniale, évoquant notamment la difficulté des autochtones à relier leurs croyances animistes à celles des missionnaires et soulevant les apparentes contradictions du discours religieux de l'époque ou encore révélant deux modes de colonisation conflictuels, à savoir celui des soldats et celui des prêtres, repris par le titre du roman, je rappelle, Par le fer et par le feu. Citation. « On règne par le fer et par le feu, non avec des prières hein, », lancera le gouverneur à las Casas. D'ailleurs, au cours de l'histoire, l'Église elle-même a suivi cette voie pour combattre les infidèles et chasser les morts de notre pays. Roman historique, roman d'aventure historique, pour reprendre la classification de Thaler et Jean Barre, puisque liant indissolublement une expérience personnelle à un événement historique, cette fiction de Mativa se cantonne au XVIe siècle et au génocide des indigènes des Caraïbes. Mais cette dénonciation de l'intolérance et du non-respect des différences, différences ethniques et religieuses en l'occurrence, se veut en fait bien plus axée sur l'actualité. Dès l'avant-propos, l'auteur invite les jeunes lecteurs à lire en mettant les événements du passé en perspective avec l'histoire contemporaine. Je cite, « Le plus tragique dans tout cela, c'est que le sujet n'a pas perdu son actualité. Au fil des siècles, les massacres collectifs, loin de disparaître, se sont au contraire multipliés. » Le supplément d'information dont je parlais tout à l'heure, en fin de volume, établit quant à lui le lien avec l'histoire canadienne. Attention, je cite, « il ne faut pas croire que le génocide n'est le fait que de pays lointains et politiquement instables. Notre propre histoire a ses chapitres sombres. » Et l'auteur de citer plusieurs exemples, parmi lesquels celui des Anglais, qui, en 1736, distribuait aux Amérindiens Delaware des couvertures infectées par la petite vérole. Ajoutons enfin que la mise en place d'un protagoniste autochtone, adopté par un blanc et devant s'initier aux coutumes et à la langue de son milieu d'adoption, permet, en plus de dénoncer certaines pratiques, de toucher à la situation d'entre-deux dans laquelle se trouvent bon nombre d'immigrants dans leur pays d'accueil et à la problématique du regard de l'autre, ce que facilite d'ailleurs la focalisation interne. Citation. Il avait beau être habillé comme tous les blancs, avoir les cheveux coupés, la couleur de sa peau, ses gestes maladroits, son mauvais espagnol, tout, lui semblait-il, le trahissait et éveillait en lui le sentiment pénible d'être un intrus. Voilà qui saura sans doute trouver des échos dans les salles de classe du secondaire québécois. Pause. Françoise Lepage, auteure mais aussi critique littéraire, spécialiste de littérature jeunesse, avait déjà constaté en 2005 que le roman historique québécois pour les jeunes avait évolué pour privilégier plutôt la représentation des différentes diverses interprétations de l'histoire et l'ouverture à l'autre et à la différence. Le postmodernisme et la remise en question des métarécits ayant sans aucun doute contribué à cet état des choses. Elle expliquait que les pédagogues et auteurs québécois, je cite, « cherchaient certes à inculquer des notions historiques aux lecteurs, mais plus encore à transmettre et à intensifier les valeurs humanistes de tolérance et de respect des différences. » C'est au Québec. Mais Lepage notait aussi l'émergence de formes romanesques plus nouvelles, auquel Françoise Ballanger donne le nom de « roman de la mémoire » ou encore « roman passeur de mémoire ». Des romans dans lesquels l'accent est mis non pas tant sur les faits historiques eux-mêmes que sur leur importance et leur signification pour les générations actuelles. Des romans ancrés non dans le passé, comme les romans historiques, mais dans le présent et dont les protagonistes découvrent, je cite Lepage, l'histoire d'un événement antérieur à eux, dont ils ne sont pas partie prenante et qu'ils doivent reconstituer petit à petit à partir d'informations retrouvées. Donc, vous voyez des romans qui mettent en fait l'accent essentiellement sur l'importance de la transmission des connaissances. Alors, dans cette optique, on peut s'arrêter sur le dernier roman de la collection Ethnos, Le goût des couleurs, de Cécile Gagnon, 2008. Il entre tout à fait dans cette catégorie du roman passeur de mémoire. Nous sommes en 2008. Après avoir fait la rencontre d'une jeune Crie lors d'un échange scolaire et avoir entendu cette dernière parler de sa propre culture avec fougue, Marielle, jeune Québécoise de 12 ans, adoptée au Guatemala, vous voyez encore la même thématique de l'adoption, et d'origine maya, s'interroge sur ses origines. Sa mère adoptive plonge alors dans ses souvenirs. Des souvenirs qu'elle lui livre petit à petit, certains passages au présent apparaissant en italique pour faire ressortir cette double temporalité. Des souvenirs qui la ramènent dans un petit village du Guatemala où elle était partie défendre la cause indigène 13 ans plus tôt. Marielle découvre ainsi ses racines, l'identité de ses parents naturels, mais aussi et surtout le sort tragique que connurent les autochtones lors de la guerre civile du Guatemala de 1960 à 1996. Ce roman s'édifie bien, comme les romans de la mémoire dont parle Bélanger, sur une rupture dans l'histoire d'un peuple ou d'une famille, puisque le parcours de la protagoniste est intimement lié au massacre des autochtones mayas, soupçonnés d'appuyer les guerrieros. Ajoutons d'autre part que, comme dans les romans passeurs de mémoire, dans cet ouvrage, l'histoire avec sa grande hache, comme dirait Georges Perec, s'estompe pour laisser place à une perspective plus individuelle, celle de la quête identitaire de la jeune Marielle. Elle qui se savait d'origine maya, mais se considérait, je cite, comme une Québécoise bien intégrée, et n'avait jamais encore ressenti le besoin de se distinguer des autres, va prendre conscience de l'importance de ses racines amérindiennes, accepter sa dualité, accepter l'autre en elle, Et elle, qui jusque-là s'habillait comme les autres pour étouffer cette partie d'elle-même qui lui était étrangère, va enfiler le huipil, une veste maya de sa mère naturelle, et s'écrira « Je suis une vraie maya québécoise ». Maya avec majuscule, québécoise avec majuscule. Deux substantifs mettant les deux identités nationales sur le même plan. Roman de la mémoire, Le goût des couleurs, pose ainsi clairement, par le biais de l'histoire de l'autre, la question de l'héritage de la culture native comme partie intégrante de l'identité. Identité individuelle, celle de la jeune Maya comme celle de sa jeune amie Cree. Identité collective, celle des Amérindiens. Et là, je cite la mère adoptive de la protagoniste. C'est là que j'ai vraiment compris la similitude qui existe entre les peuples indigènes dans leur combat et leur lutte farouche pour être reconnus comme citoyens dans leur propre pays. Fin de citation. Mais aussi identité et culture nationale, comme y invitent les propos de la protagoniste. Elle dit comprendre que les Cris se disent québécois tout en revendiquant bien plus qu'un héritage historique lié au conflit entre la France et la Grande-Bretagne. Et j'ouvrirai ici une petite parenthèse très rapide pour rapprocher ce roman d'un autre ouvrage des éditions Tisser, Lettres de Chine, de Dessureau, paru en 97. La jeune protagoniste, elle aussi issue de l'adoption interraciale, va partir à la recherche de ses racines en Chine et va découvrir par les récits de son parrain et de sa mère naturelle la dure époque de la révolution culturelle chinoise et les circonstances qui ont conduit à son adoption. Et elle aussi va finir par accepter l'autre en elle. Donc toujours la même problématique. Je vais essayer de faire. Le troisième et dernier roman de la collection Ethnos sur lequel nous aimerions nous arrêter, c'est Le naufrage d'un héros de Diane Bergeron, publié en 2009, qui lui revisite un événement historique étranger bien plus contemporain. Il choisit d'aborder du même coup une réalité sociopolitique toujours d'actualité, le blocus de Cuba et la situation précaire des Cubains d'aujourd'hui. Le roman se présente clairement comme une fiction bâtie sur une trame historique réelle. Les premières années du jeune héros fictif de 14 ans, reprenant à quelques détails près celles d'un jeune héros de l'histoire cubaine, je cite, un symbole vivant du triomphe cubain sur l'impérialisme américain, je cite toujours, le jeune Elian Gonzalez, qui en 99, vous en souvenez peut-être, à l'âge de 6 ans, a fait naufrage près des côtes de Floride et s'est trouvé au centre d'une saga judiciaire américano-cubaine, les deux pays s'étant disputés sa garde. Bergeron aussi a choisi le registre roman passeur de mémoire pour mettre l'accent non seulement sur l'importance de la transmission de l'histoire de l'autre, mais aussi et surtout sur la problématique de l'interprétation de ces événements qui ont fait l'histoire. L'accent se déroule à Cuba dans le présent et le jeune protagoniste, héros national malgré lui, est amené à se pencher sur les événements de son enfance dont il se souvient à peine, mais qui, à sa grande surprise, ont fait l'objet de débats internationaux. C'est une institutrice québécoise dont la classe a entrepris une recherche sur Cuba et sur le jeune Lucas, c'est un peu poussé, hein, mais enfin bon, qui aidera ce dernier par les lettres et documents ou archives qu'elle et ses élèves lui feront parvenir à fouiller l'histoire cubaine pour mieux saisir les circonstances qui ont poussé sa mère à tenter une traversée clandestine. Il comprendra aussi le conflit américano-cubain qui a entouré son naufrage. Et à travers le tableau qu'il dresse de lui et des événements, il sera amené, je cite, « à poser un regard différent sur des choses qu'il a toujours tenues pour acquises et à découvrir l'étranger qu'il est pour lui-même. » Tout au long du roman, l'histoire événementielle va ainsi s'estomper pour laisser place à une perspective plus individuelle. Mais sa portée prend toutefois une dimension collective, car même si le héros reconnaît, je cite, ne pas avoir vraiment le goût de relier sa mère à l'histoire de son pays, de la réduire à une victime parmi tant d'exilés, il ne peut faire autrement, puisque tout au long du roman, il est question de nombreux Cubains qui, étouffant par manque de liberté, les questions d'étouffement partout, ont tenté et tentent encore régulièrement, clandestinement, de rejoindre les côtes de Floride. Conclusion rapide, j'ai le temps. Donc, Françoise Ballanger, je reviens sur Françoise, on ne se connaît pas, mais c'est plus facile pour moi, disait des romans passeurs de mémoire qu'il cherchait, je cite, « à offrir matière à réflexion, à expliciter des valeurs, en montrant qu'il ne s'agit pas seulement de connaître le passé, mais aussi de se l'approprier, de se sentir concerné pour le présent comme pour la construction de l'avenir. » Voilà bien des caractéristiques qui pourraient s'appliquer aux trois ouvrages de la collection Ethnos que nous avons abordés. Par la mise en place de protagonistes contemporains venus d'ailleurs et cherchant à accepter l'autre en eux, ces fictions font découvrir à leurs jeunes lecteurs l'histoire de l'autre, tout en établissant un lien entre mémoire collective, construction personnelle et identité culturelle et nationale. Une approche pluridisciplinaire qui permet aux jeunes lecteurs issus de l'immigration comme de la culture dominante de découvrir une histoire et une culture qui leur sont peut-être étrangères, mais qui, et c'est là la beauté du message, viendront nourrir, enrichir, compléter leur identité culturelle et nationale. Je m'arrêterai là. Merci. De rien. Oui. Je vais être honnête avec vous, apparemment ça n'en a pas beaucoup, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de m'en procurer, il a fallu que je les commande par internet, parce que les... Non, je dois dire quand même que je reconnais que je suis en Ontario, donc c'est quand même plus difficile qu'au Québec. Mais lorsque j'ai cherché à m'en procurer, ça a été, on m'a dit, bah, commander par internet, c'est plus facile. Donc ça, ils ne sont pas distribués facilement. Il est vrai que, bon, je tourne tout vous dire et je lance ici le débat. J'ai suggéré à une de mes étudiantes, universitaire, de faire une présentation du goût des couleurs. Alors, est-ce qu'elle a préféré, elle me disait, chercher quelque chose, parce qu'on parlait justement des romans sur l'adoption, etc. Elle me disait, ben oui, être intéressée. Je lui dis, oui, vous savez, enfin, je vous préviens tout de suite, c'est un roman, celui-ci peut-être plus que les autres, très didactique. Elle a commencé à le lire, elle m'a dit, oui, et elle me l'a rendu. Donc, honnêtement, je dirais que ce roman me plaît beaucoup de par l'approche qu'il a adoptée. Comment ? La chaîne Maya. Je trouve que l'idée, le concept même, la méthodologie est très intéressante. Mais alors, c'est ce ton didactique qui revient constamment. Oui, papa ?
Ah oui, ça c'est
bien. Et au-delà de la situation,
oui.
Et notamment, je crois que M. Lavoisier, il y a aussi les garde-fous quand même. Mm-hmm. Et je crois le premier roman.
Oui.
Vous savez, c'est l'espèce de parallèle qui est fait avec sa nouvelle.
Oui, c'est ça, oui.
Il me semble aussi qu'il faut être très vigilant sur l'anachronisme.
C'est la raison pour laquelle je suis arrivée ici en disant je préfère lancer le débat plutôt que de répondre à des questions. Voilà. Mm-hmm. Bien sûr.
Mais tout ça nourrit la réflexion véritablement. Et comme je le dis, votre question, c'est très pratique. Actuellement, nous travaillons sur des idées de francophones, bien sûr, également. Tout ce qui est toute la littérature, le cahier de France, la banlieue, le moral et la question, je crois que c'est plus. Il y a ce problème de l'assignation aussi. Parce qu'on a le droit, je crois, de ne pas pouvoir ça.
Et je dirais d'ailleurs, oui, je dirais. Et j'allais dire qu'en fait, je ne suis plus assez jeune pour me considérer comme lecteur ou lectrice cible, mais je dois dire que le fait d'avoir ce supplément d'information, long supplément d'information, là, comme ça, je veux dire, bon, quelques dates, d'accord, une carte ou deux, d'accord, Rien que ça, je veux dire, je me mets à la place du jeune de 14-15 ans. Ah, ça y est, qu'est-ce qu'on va encore essayer de m'apprendre ? Et je trouve que c'est dommage. Le roman historique de, oui, celui-ci de Mativa, je le trouve très agréable à lire. Ça fait un peu parfois un peu le bon sauvage quand même qui revient. Mais bon, ça passe. Mais, faudrait peut-être mettre ça. On a des fiches pédagogiques qui existent. Hein. Je veux dire, les maisons d'édition font des fiches pédagogiques. On pourrait peut-être les mettre déjà, commencer par là. Ce serait une suggestion pour la maison d'édition.
Oui, puis enfin, il me semble que c'est aussi, mais on retrouve le même problème dans la littérature pour jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que moi, je pense, mais c'est peut-être pas à cause de mon âge, que la littérature, c'est d'abord l'imagination, le fait de sortir de son monde et de faire un détour par tout un autre monde pour en revenir plus fort, plus fin, plus ouvert, plus tout ce qu'on veut, je ne sais pas, sur soi-même, sur le monde, etc. Mais l'assignation, effectivement, et la bien-pensance qu'il y a derrière, je trouve ça insupportable, personnellement.
Je dois dire qu'à la première lecture, j'ai dit, tiens, bizarre, mais enfin intéressant. Deuxième, troisième... Bon, d'accord, et puis, je veux dire, celui-ci, ce sont des leçons de morale les unes derrière les autres. Mais enfin, bon, je ne voudrais pas qu'on reproche ça à l'auteur. C'est la collection, et c'est en fait une collection qui a été conçue pour les nouvelles directives, et ça ne peut que se sentir. Comment ? Je dois dire que je n'enseigne pas. Je crois que mes collègues du Québec pourraient vous en parler davantage, Noël Sorin et Daniel Lassalle. Moi, je n'enseigne pas. J'enseigne la littérature de jeunesse comme, disons, faisant partie de la littérature française ou francophone à des étudiants universitaires. Donc, mes collègues n'ont pas, mes collègues avec qui je travaille n'ont pas à les utiliser en salle de classe. Mais enfin, moi, je vois ça comme un manuel. Je ne sais pas comment vous, mais plus un manuel qu'un roman jeunesse. C'est un prétexte, bien sûr. Oui, c'est de la littérature, mais... qui étaient en fait essentiellement des messages pédagogiques en bonne et due forme. Oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, et là, c'est flagrant. Mais je trouvais quand même que la problématique que soulevaient ces ouvrages était particulièrement intéressante, parce que c'est en fait, enfin, pose la question qui est la même ici, hein, de l'héritage, de la mémoire collective, la transmission des savoirs, mais est-ce qu'on veut passer par là ? Voilà, exactement. Merci. Je vais vous laisser. Je me retire. Vous avez les deux micros là.